Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Rédemption, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Nuit d'hiver dans les rues lugubres et étroites du quartier populaire de la ville. Comme toutes les nuits, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors il est sorti marcher pour se détendre. Il marche d'un bon pas sans voir ce qui l'entoure. Les lumières des réverbères lui font une ombre grande et qui fait peur avec sa soutane et son chapeau. Par-dessus la soutane, il a mis une veste en cuir marron usé. Il marche les mains dans les poches de la veste. Ses brequins font un bruit sourd sur le pavé. À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qui empêche le prêtre Jean-Bernard Lefebvre de dormir? Une peine secrète? La lutte entre le bien et le mal? Il tourne une rue et continue sa course. Tout à coup, une sirène vient de retentir, qu'il fait sursauter et le paralyse. Elle vient d'une bijouterie. Des coups de feu ont retenti. Il y a deux pas de la bijouterie, du rideau de fer, à peine ouvert, sortent trois jeunes adolescents. Qui courent, s'éloignent. Il y a un quatrième qui, lui, n'a pas pu courir. Il semble baissé de la jambe droite. Il est sorti difficilement de dessous le rideau de fer et ne peut se relever. Il crie « Et moi alors? On m'abandonne? Ne m'abandonnez pas. Je ne peux pas marcher. Que vais-je faire? Je suis perdu. Des coups de feu ont retenti à l'intérieur du magasin. Des pas et les rideaux de fer qui se montent. L'adolescent paniqué essaye de se mettre sur ses jambes, mais ne le peut. Alors le prêtre, qui avait vu tout ça, sans réfléchir, sans réagir, et puis ça s'était passé si vite, d'un bond, sans réfléchir non plus, va vers l'adolescent. Le soulève et l'entraîne. Dans une allée un peu plus loin, il a tout juste eu le temps d'emmener le jeune, que le bijoutier est dehors et que l'on entend la sirène de la police. Le prêtre et le jeune ne se parlent pas. Dans l'allée d'un vieil immeuble lugubre, il amène à l'autre bout, ouvre une porte vitrée qui donne dans une cour. Il traverse la cour et entre dans une autre allée. On monte les escaliers et au premier étage ouvre une porte. Et se trouve dans une autre rue. Le prêtre est en sueur de se dépêcher et en soutenant le jeune. Il se pose pas de questions. C'est la providence qui lui a mis sur son chemin ce jeune. Le jeune ne souffre presque pas, se laisse maintenir par cette main qui le maintient et le guide, une main forte et dure qui l'entraîne en lui faisant mal. Il n'a pas vu qu'il le maintient ainsi. Il sait seulement que ce n'est pas la police. Avoir été transporté dans une course folle à travers les rues désertes, il est plaqué contre une vieille porte sombre qui s'ouvre. On le fait rentrer. Il a entendu derrière lui la porte se refermer. Un bruit d'interrupteur. La lumière s'éclaire. Le bras le maintient toujours. Il regarde, c'est une grande salle avec une longue table de bois marron foncé, des bancs autour. Au mur, un crucifix, une bibliothèque, une armoire. Ça sent l'encens. Il se demande où il se trouve. Le bras le lâche. Il fléchit. On le prend par derrière aux aisselles pour le faire asseoir. Puis, il voit que s'agenouille devant lui un prêtre qui lui soulève son pantalon. Pour voir sa blessure, le prêtre a un visage doux, jeune, les cheveux bruns, un visage mélancolique même. Il touche la cheville de l'adolescent, ses mains sont douces. Il a été blessé au mollet, mais la balle n'a fait que l'effleurer. « Ce n'est pas grave, je vais te faire un pansement. » Le prêtre se lève et sort de la pièce. L'adolescent se dit « Un curé, qu'est-ce que je vais devenir ?» Le revient avec une bassine en émail, du coton, de l'alcool et un bandage. Il s'approche et se penche. Il lui fait son pansement, puis lui rabat la jambe de son pantalon. Une fois que la chose est faite, pour la première fois, il regarde l'adolescent. Il doit avoir les 14-15 ans, maigre, le visage osseux, peau juvénile, mais avec quelque chose dans le regard qui lui donne un air traqué sur ses gardes. Des cheveux blonds, habillé avec des vêtements beaucoup trop grands pour lui, un costume gris sans forme, une chemise à carreaux bleus et blanches, des chaussures brodequins usées. Comment t'appelles-tu ? Vous allez me mettre en prison ? Non, je vais te soigner, te protéger. Pourquoi ? Parce que c'est mon devoir, je suis prête. Allons, dis-moi ton nom. David Perroc. Tu as faim, David ? Non, j'ai sommeil et la jambe me fait mal. Je vais te coucher, demain tu iras mieux. Il le prend, le soulève, le maintient et ils sortent de la pièce. Ils suivent un couloir, le fait monter des escaliers de bois ciré, et au premier étage, ouvre une porte et entre. Éclair. C'est une petite chambre avec un lit de fer, une table de nuit, un prie-dieu, une bibliothèque et une penderie. Il n'y a pas de rideau, ça sent la cire. Déshabille-toi. L'adolescent a des difficultés à le faire, alors il le déshabille. Ne lui a laissé que ses sous-vêtements. Maintenant, couche-toi. La pièce n'est pas chauffée, mais il a de bonnes couvertures. Bonne nuit. Le prêtre s'apprête à quitter la pièce. Et que vais-je devenir ? Le prêtre se retourne et le voit qu'il regarde. Nous aviserons. D'abord repose-toi, guéris ta blessure. Bonne nuit. Et il quitte la pièce. Et descend les escaliers pour aller à sa chambre. La pièce ressemble à l'autre, mais elle est un peu plus grande. Les meubles se ressemblent. Il y a en plus un petit bureau au milieu de la pièce, avec un encrier, un porte-plume en bois, un buvard et du papier à lettres. Il va s'asseoir sur une chaise en paille. Qui se trouve devant le bureau, épuisé, la tête en feu, malgré le froid, il est en sueur. Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Que dois-je faire de ce presque jeune enfant ? En l'amenant ici, je ne pensais pas, je l'ai fait sans réfléchir. Maintenant qu'il est là, j'ai besoin d'aimer, de porter mon affection sur quelqu'un. Je ne lui ferai pas de mal. Il sera même très bien avec moi. Je vous le promets. Je vous le promets. Le lendemain, le prêtre va voir David. Lorsqu'il entre dans la chambre, il est déjà réveillé. Il s'approche du lit. Bonjour, tu vas mieux ? J'ai un peu mal, mais ça va. Il soulève la couverture. Il regarde la blessure, en soulevant le pansement. « Ce n'est pas grave, mais il faudra rester chez moi quelque temps. Je suis obligé de te cacher à cause de ma gouvernante. J'ai une chambre au sous-sol, pas très confortable, mais tu seras bien. Lève-toi, je vais t'imonner. » David se lève. Le prêtre le maintient. Il prend ses vêtements qui sont sur une chaise, en passant, et sort de la pièce. Il le mène au sous-sol par un escalier raide et humide. En bas, il ouvre une porte. La pièce est étroite et a tout juste une lucarne qui donne au ras du sol au jardin. C'est sombre, ça sent le moisi, un air à faire d'une place. Une table et une chaise. C'est une chambre qui servait à cacher des résistants pendant la guerre. Là au moins, tu seras tranquille. Couche-toi et je vais t'apporter ton petit déjeuner. Et le prêtre sort. C'est de la folie ce que je fais. Il arrive à la cuisine. Il trouve sa gouvernante, ou plutôt sa femme à tout faire, Marie, une femme de 50 ans, grande, grosse, ses cheveux gris, visage aigri, habillée de noir. Elle est veuve et sans famille. Cela fait 10 ans qu'elle sert le prêtre. Cette femme sans instruction a l'instinct de comprendre le genre humain et n'est pas surprise de ce qu'elle apprend sur les hommes et ne juge pas. Chacun a ses faiblesses. Elle prépare le petit déjeuner. Bonjour Marie. Bonjour mon père. Il s'approche d'elle. Laissez cela, je m'en occuperai moi-même. Faites plutôt la chambre. Bien. Elle sort de la pièce. Le prêtre met aussitôt sur un plateau tout ce qu'il faut pour un petit déjeuner. Bol, confiture, morceaux de pain. Il sort de la pièce. Le couloir est vide. Il en profite pour descendre le petit déjeuner à David. Qu'il ait fini de manger, le prêtre lui dit « C'est moi qui t'apporterai tes repas et tu dois en aucun cas sortir de cette pièce. »«
Pourquoi me cachez-vous ?»«
C'est pour ton bien. La police doit te chercher et si elle te prend, tu iras en prison. »«
Pourquoi m'aidez-vous ?»
Le prêtre rougit. « C'est parce que je veux du bien. Je veux t'aider. Tout être dans la détresse doit avoir de l'aide. Et je suis prêtre. » C'est mon devoir de le faire.
Le prêtre se lève
et dit, c'est l'heure de ma messe. Je prierai pour toi.
David hésite et demande, comment vais-je faire pour aller au petit coin?
Après la messe, je t'apporterai un seau hygiénique.
Et il sort.
Il fait la messe chaque jour dans une petite chapelle qui appartient à une petite école. Et il y a aussi les gens du quartier qui peuvent y aller. Il fait aussi le catéchisme et confesse ses élèves.
mais il n'a aucun autre rapport avec les enfants et les enseignants. Depuis quelque temps déjà, il n'a plus la foi. Cela lui est venu d'un coup. Il s'est rendu compte que ce qu'il faisait ou disait pour Dieu n'avait pas de sens, que c'était devenu des gestes automatiques. Alors il ne prie plus et mime sa messe. Les privatisations de la guerre en 1950, il en ressent encore les séquelles. La solitude, cacher ses sentiments, désirs, l'ont rendu froid, poreux sur le qui-vive. Alors, ce qu'il ne peut vivre dans la vie, il le vit en pensée dans ses rêves. Il s'imagine qu'il peut porter son affection, une affection folle, sans contrainte, à un enfant ou jeune adolescent. Depuis toujours, elle a aimé les garçons au regard juvénile et aux joues lisses et fines. Il n'en a jamais touché, et personne ne le sait. Et un soir, il l'a trouvé à terre David. Sans réfléchir, il l'a amené avec lui. C'était tellement facile qu'il avait l'impression de rêver. Maintenant, il est là, dans sa maison, caché. Personne ne le sait, et peut-être que sa famille le recherche. Et moi, je suis là assis à mon bureau, à me demander ce que je vais faire de lui et de moi. C'est fou. Je ne veux le libérer. J'ai l'impression d'avoir un trésor qui risque de s'évanouir à la lumière du jour. Les jours passent. David se rétablit petit à petit. Le prêtre va le voir plusieurs fois par jour. Il est troublé par le corps de David, un corps encore enfant et maigre. Il n'est intéressé que par le corps, ce qui fait encore que c'est encore plus grave que son désir. David s'ennuie dans sa chambre. Il se lève un peu de son lit et marche de long en large. Un soir, après avoir dîné, il dit au prêtre: j'aimerais pouvoir partir. Non, pas encore, c'est trop dangereux. David soupire et dit: je m'ennuie. Je t'amènerai des livres. Je n'aime pas lire. Tu apprendras, dans les livres il y a beaucoup de choses. Ça ne m'intéresse pas, je veux aller dehors. Plus tard, tu n'es pas bien ici. Pour la première fois, le prêtre lui caresse la main. Il en ressent un plaisir extrême. Non, j'aime mieux être dehors. Il dégage sa main d'un geste brusque. Le prêtre rougit et a honte. Au bout de quelques secondes, il le quitte. Ce contact l'a troublé. Il pense chaque jour et la nuit, il ne peut dormir. Alors il se lève et va le voir dormir. David a le sommeil profond, ne se rend pas compte de la présence du prêtre qui reste à le regarder debout devant le lit pendant des minutes et des minutes. Il lui a apporté des livres, tout ce qu'il a pu trouver, des illustrés égarés par les élèves, quelques romans pour enfants et même des livres pieux. David n'y a même pas jeté un coup d'œil. Chaque matin, au lever, le prêtre assiste et l'aide à sa toilette. Avec une bassine émaillée, bleue écaillée, pleine d'eau, du savon, un gant et une serviette. David, le torse nu, en slip, se nettoie. Le visage, les bras, le corps, le prêtre lui lave le dos. Cette toilette est pour le prêtre une cérémonie érotique. Il voit ce corps d'adolescent, nu en slip blanc, où il devine ses formes intimes. Ce corps que l'adolescent touche, et lui, le touchant, le met le feu aux joues. David ne se rend pas compte du trouble qu'il procure. Le prêtre, à lui, lavant le dos jusqu'à la naissance des fesses, bande et a le souffre court. Se penche malgré lui et effleure les lèvres le corps de David qui sent un souffle chaud sur sa peau, ce qui lui est désagréable mais n'ose pas en parler. Marie sent qu'il y a quelque chose, des aliments qui disparaissent, le prêtre qui s'absent souvent et puis elle a vu la porte qui donne au sous-sol ouverte. Je ne veux pas jeter un coup d'œil en bas. Ça ne me regarde pas. Le prêtre est pris dans sa passion charnelle, mais quelquefois, dans un moment de lucidité, il en a honte. Ce n'est pas de l'amour. Je me fiche de ce qu'il est. Je ne cherche même pas à lui faire plaisir. Mais je n'aime que sa chair. C'est horrible. Mais je n'y peux rien. David a repris ses forces et en a assez d'être entre ces quatre murs. Il aimerait sortir. Je suis libre. Je veux sortir. Que je me dis que jamais il me laissera sortir. Il n'y a qu'à voir où il m'a enfermé, où il m'a mené. Un matin, le prêtre ouvre la porte et entre dans la chambre. David, qui est derrière la porte, sort de la pièce. Le prêtre l'a entendu. Il sort de la pièce lui aussi en vitesse et le rattrape en bas des escaliers. Il le tire par derrière et le force à entrer dans la chambre. L'adolescent se défend et crie « Laissez-moi partir! Laissez-moi partir !»« Non, tu ne peux pas, c'est dangereux !» Il ramène David dans la pièce, d'un coup de pied, il ferme la porte. Il pousse son lit, la tête la première. Le prêtre se couche sur lui et lui dit « Je fais ça pour toi, tu risques la prison !» Si tu sors, il sent le corps de l'adolescent sur lui. Il est troublé. Lui, David, sent seulement ce corps qui l'empêche de bouger. Ne cherche plus à sortir. Reste ici. Je t'en prie. Fais-le pour moi. Je suis prisonnier alors. Oui, prisonnier d'un feu terrible qui me brûle moi. Je ne comprends pas. ne faut pas comprendre. Faut se laisser prendre. Serrez trop fort. Lâchez-moi. Le prêtre le lâche. Il se lève. Et dit, ne vous pas chercher à partir, David. Je suis votre prisonnier. Non, pas le mien. Et le prêtre sort de la pièce et ferme la porte à clé. Après cette scène, après avoir senti ce corps contre lui, il est comme fou de désir. Cela le rend malade. Cette fièvre est intolérable. Si je ne me démine pas, je risque de sauter sur lui comme une bête. Il ne mange plus, ne dort plus. Pour se sentir mieux, il boit. Boit jour et nuit. Du vin bon marché qui lui donne des douleurs d'estomac. Mais cela lui fait du bien. Qu'il boive, cela ne se voit pas trop. Il sait se tenir droit. Mais Marie voit qu'il maigrit et qu'il ne mange plus. Vous êtes souffrant?
Oui, si l'on veut.
Allez voir un médecin.
Non, seulement moi je peux me guérir.
Le vin l'endort, mais ne l'empêche pas d'avoir des rêves érotiques. Et il ne peut s'empêcher d'aller épier David dans sa chambre. David déprime. Il est agité la nuit et la journée n'agoit rien. Il mange très peu et reste allongé. Le prêtre vient avec un jeu de cartes pour le distraire, mais l'adolescent refuse de jouer. Un jour, David, en feuilletant les livres qu'on lui a amenés, tombe sur les évangiles. Il lit et cela lui fait du bien. Lui qui n'a pas l'habitude de la lecture, qui comprend tout juste ce qu'il lit, il est troublé par ce qu'il lit et se pose des tas de questions. Lorsque le prêtre vient le voir, il se rappelle que c'est un prêtre et veut son aide pour comprendre. J'ai lu ceci, ça m'a beaucoup plu. Le prêtre ne réagit pas. Mais j'aimerais savoir pourquoi Dieu a voulu que son fils soit sacrifié. Vous le savez, vous ? Le prêtre aux épaules. Non. Vous croyez qu'en mourant, il a sauvé les hommes et qu'on l'on a accès au paradis ? Cette conversation n'intéresse pas du tout le prêtre. J'aimerais, c'est arriver, moi aussi, avoir une belle vie, une vie comme celle de Jésus. L'adolescent est de plus en plus ému et se promet en lui-même d'avoir une vie exemplaire. Il se sent bien et ne pense plus à s'évader. Autant la foi de David grandit, autant la vie du prêtre devient un enfer accepté. Il boit de plus en plus et est pris par les désirs de la chair. C'est tout juste s'il a la force de dire sa messe et remue à peine la bouche pour prier. Ses nuits sont pleines de rêves érotiques de plus en plus sulfureux. S'il croyait en Dieu, il dirait que son âme est prise par le démon. Ce qui fait que David prend la foi que le prêtre devrait avoir et le prêtre devient hors la loi et la foi. avide par ses journées à lire, quelque chose a changé pour lui. Il a besoin de pureté, d'amour. Il est, comme l'on dit, pris par la grâce. Jusqu'à présent, il a vécu une vie triste, sans avenir ni lumière. De parents alcooliques, de père au chômage, la mère faisant le ménage. Il est le troisième d'une famille de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, vivant dans un petit 3 pièces, sans eau, les toilettes et le lavabo sur le palier. Les enfants n'allant pratiquement pas à l'école, mais courant le ruisseau du quartier. Le père, ayant la main leste pour donner des gifles ou des caresses un peu trop intimes, n'ayant aucun sens moral de la famille. Très vite, David s'est échappé de cette famille pour vivre dehors avec des bandes de jeunes qui, comme lui, traînaient dans les rues. C'est là qu'il a fait connaissance de jeunes voleurs. Si le prêtre avait été moins tortueux, il aurait pu avoir son corps qui était prêt à se donner. Lui, le prêtre, est issu d'une famille bourgeoise. Son père est mort lorsqu'il avait 5 ans. C'est sa mère qui l'a élevé. Fils unique, elle apportait toute son affection sur lui. Comme elle voulait que son fils soit prêtre, elle l'a fait entrer au petit séminaire. Lui, couvé par sa mère, qui le voulait toujours avec lui, jusqu'au petit séminaire, n'a jamais pu fréquenter d'enfants de son âge. Il en a rêvé, le désirait. Au séminaire, trop timide, il n'a pas pu vraiment avoir de relations. Il est arrivé à l'adolescence où le désir d'un ami et où en même temps les sens s'éveillent. Sans qu'il s'en rende compte, le désir d'amitié s'est transformé en désir d'amour et de sexualité. Mais il ne le savait. C'est qu'après une tentative d'amitié avec un séminariste, qui s'est aperçu avec surprise que son amitié avait des désirs physiques. Il en a eu honte et croyait être le seul dans ce cas. Puis un jour, il fut traité par celui avec qui il essayait d'avoir des relations de pédé, tapette. Il demanda ce que cela voulait dire et comprit qu'il n'était pas le seul à avoir ses désirs. Mais il ne cherchait pas à rechercher des gens comme lui. Non, il voulait quelque chose de pur, de profond. Un enfant ou un jeune adolescent avec qui il puisse apporter toute son affection. Chaque fois qu'il voyait un enfant ou un adolescent, il était pris de désirs d'affection, mais aussi quelquefois de besoins charnels. Il faisait de plus en plus des rêves érotiques, il pensait de plus en plus, en oubliant la religion. Passait ses nuits à errer dans les rues désertes, à chercher, à rêver l'être aimé. Et un jour, il est tombé sur David. Les jours passent. David ne pense plus à s'évader. Il est pris dans une espèce de crosse et quelque chose lui dit qu'il va servir d'intermédiaire pour Dieu. Il sent que sa vie a un but, que son heure va arriver. Le prêtre boit toujours autant. Il a comme une fièvre et ne désire qu'une chose, assouvir ce qu'il désire le plus. Il va le voir plusieurs fois par jour, David. Il est brusque avec lui, car il sait que s'il souffre, c'est de sa faute. Il a de plus en plus de mal à l'aider à se laver. Il souffre, soupire, ses mains tremblent. Il aimerait plaquer ce corps contre le sien, lui donner des baisers, faire tout ce que ses rêves lui ont appris. Mais il n'ose pas, et cela l'énerve. Saleté d'éducation à une religion, comme j'envie l'antiquité où la pudeur et les interdits n'existaient pas. jour qu'il lui lave le dos, il est pris de vertige, plaque l'adolescent contre lui et lui donne un baiser fougueux dans le dos. David ne comprend pas, il se débat. Mais le prêtre le maintient plaqué. Il souffle de plaisir, la douceur de cette chair, son odeur. David, ça le dégoûte, cette haleine sur lui, ce corps contre lui. Lâchez-moi, vous faites mal. Non, je t'en supplie. Il retourne David d'un coup brusque. Que tu as un corps magnifique. David se débat. Le prêtre le maintient d'une main contre lui et de l'autre, lui laissant d'un geste brusque le slip. Que tu es beau. Un sexe blanc avec quelques poils blonds autour. David se débat. Il se dégage. Le prêtre plonge sur lui et le fait tomber sur le dos. Non ! Il gigote sur le prêtre qui le bat contre lui et le caresse. Qui descend jusqu'au sexe qu'il caresse. David se défend. Puis se détend un peu. Une fois qu'il est joui, David pleure et essaye de se défaire de l'étreinte du prêtre. Le prêtre, après avoir joui, se sent morose. Il a en colère contre lui, contre lui-même et David. Lâchez-moi, je vous déteste. Je vous déteste. Non, je ne veux pas que tu me détestes. Je t'aime. David pleure, arrive à se soulever et se lève. Il est tout courbaturé, taché, giflé, reste nu. Je vous déteste. Le prêtre se relève difficilement. Essoufflé, les cheveux en broussaille, il remet en place ses vêtements. La honte est furieux contre lui-même. Je veux m'en aller. Je peux vous voir. David court vers la porte. Le prêtre le voit et lui crie. Non, reste. David essaye d'ouvrir la porte. Mais elle est fermée à clé. Le prêtre fonce sur lui. Il veut prendre l'adolescent qui se débat. Lâchez-moi, vous faites horreur. Je ne veux plus que vous me touchiez, vous me dégoûtez. Alors le prêtre, qui ne supporte pas ce que dit David, passe sa fureur contre lui-même, sur David. Il est comme fou, il ne sait plus ce qu'il fait. L'adolescent est horrifié par son visage. Tu es à moi. L'adolescent n'a pas le temps de se sauver, qu'il fonce sur lui. L'adolescent a peur, voit sa dernière heure venir. Le prêtre lui colle la tête contre le mur, lui criant « Tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi !» Et en sueur, David n'a plus la force de réagir. Chaque coup s'enfonce dans le crâne. Ses yeux se troublent. Mais tout à coup, une lumière. Il voit qu'il est sorti de la soutane du prêtre une croix accrochée au cou par une chaînette. Cette croix, en quelques secondes, lui rappelle la seule chose qui lui a rehaussé la vie et sent que c'est le moment d'être fidèle et d'en finir selon ses préceptes. Il se met à dire « Je supplie, bénissez-moi, je vais mourir, faites vite !» Le prêtre prend cette phrase en plein cœur. Il s'arrête de cogner. Faites vite. Il sent que l'adolescent ne tient plus sur ses jambes. il le dépose à terre et le bénit. Alors David, malgré lui, se met à dire « Voilà mon but, je vous ai ramené à Dieu. » Et il meurt. Le prêtre est ému, secoué, n'ose pas baiser le front de David, ne s'en sent pas digne. Il lui ferme les yeux, les larmes aux yeux, et s'assoit près de lui à terre. Qu'ai-je fait, mon Dieu? Je vous demande pardon. Et se penchant vers David, je demande pardon, je suis un grand criminel. C'est moi qui aurais dû mourir puisque mon âme était prise par le diable et que toi tu étais devenu le serviteur de Dieu. On t'a mis sur mon chemin pour me remettre sur le droit chemin. Et je restais aveugle et sourd à tes appels. Je préférais vivre dans le péché. Pardonnez-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, David. La pièce pleine de lumière. Sur le plancher, le prêtre est toujours assis auprès de David. Il ne sait pas combien de temps il est resté là, sans bouger. Dieu existe, puisque la foi était plus forte que le péché. Malgré le crime, David a voulu la religion et son drame, croire en l'amour. Je demande un pardon à Dieu et à toi, David. Je crois en la résurrection de Dieu. Pour cela, il est impossible de ne pas croire. Je te remercie, David, de m'avoir sorti de la nuit. Je vais me dénoncer à la police et me mettre à disposition de la justice des hommes. Il se lève pour aller vers le lit. Prendre un drap pour aller déposer sur la nudité de David. Sort de la chambre. À la cuisine, il retrouve Marie qui prépare le repas. Elle a entendu des bruits, des cris, mais n'a pas voulu savoir ce qui se passait. Elle est à table et prépare une salade. Il va vers elle. Marie, je vais à la gendarmerie me constituer prisonnier. J'ai fait un crime horrible. Je me doutais, monsieur, que depuis quelque temps ça n'allait pas. Vous aviez l'impression d'avoir lâché Dieu. Mais j'avais confiance. Je savais que Dieu ne vous lâcherait pas et qu'à la première occasion vous ramènerait à lui. Allez sans crainte. Dieu vous a déjà pardonné et vous aidera dans les épreuves de la justice des hommes. Le prêtre quitte la pièce. Marie continue sa salade pour elle-même. Elle se dit qu'elle a fait son devoir honnêtement. Son âme est en paix avec Dieu et les hommes, malgré qu'elle sait au fond d'elle-même qu'elle n'a pas porté secours à personne en danger et que par sa faute, une victime innocente est morte. Je suis restée dans mon rôle, discrète, sans chercher à savoir. Et ce que j'ai su, je l'ai su malgré moi. J'ai agi honnêtement, comme une bonne chrétienne. Depuis le début, elle sait, elle avait entendu que David était séquestré par le prêtre. cette histoire est finie. Je suis honteux de l'avoir écrite comme cela, d'une façon pas tellement bâclée, mais surtout, je ne sentais pas les personnages et les scènes. Un bon sujet peut donner des histoires mauvaises et un mauvais sujet de bonnes histoires. Celle-là, le sujet était bon, mais j'étais surtout gêné par le personnage du prêtre. Encore une fois, présenter un prêtre d'une façon négative avec ses obsessions sexuelles. Les prêtres sont tellement mal vus à notre époque, j'ai eu honte. Dommage, ce sujet aurait pu être traité comme une tragédie. Le prêtre prie entre la religion, la loi des hommes, ses désirs personnels, et l'adolescent se donnant à l'holocauste pour sauver l'âme du prêtre. L'enfant qui est incroyant devient croyant, et le prêtre de croyant devient incroyant. Du péché naît la pureté. Voilà ce que je n'ai pu réussir à rendre dans mon histoire. Pardonnez-moi. Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Rédemption, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.